Ça ne sert à rien.
Jacques, merci. Je vais vous parler de stupeur et bêtises.
Merci, Anne. Borges, c'est une introduction. Ça ne va pas être une comparaison. Je ne fais pas du tout une comparaison de Borges et Flaubert, mais c'est un moyen d'accès. Et je dois dire que, en fait, l'exposé que je vais présenter, premièrement, est une tentative, et non pas curieusement, mais de manière opportune, répond à la question posée par Philippe Chardin. C'est-à-dire que, par rapport au premier exposé, c'est effectivement cette dimension de la manière dont Flaubert, au fond, construit des réponses diverses à cet objet qui est en jeu. Alors, je pensais introduire Borges tout simplement à cause de l'article de Borges. Je dis Borges, excusez-moi, je vais essayer de dire Borges, mais Borges est un grand écrivain français, depuis ses traductions par Caillois, etc. Ah bon, Borges. Parce qu'à cause de l'article en discussion, Flaubert est son destin exemplaire. Cette notion de destin exemplaire est ce qui m'intéresse. Borges écrit, Flaubert, premier Adam d'une espèce nouvelle, celle de l'homme de lettres comme prêtre, et comme martyr. Comme ascète et comme martyr. C'est devenu effectivement une sorte de lieu commun, mais quand c'est formulé par Borges, ça a un sens particulier. En principe, précisément parce qu'il le rapporte à une sorte d'origine, premier Adam d'une espèce nouvelle, et surtout, ce qui est intéressant dans ce grand article, c'est la manière dont il le compare aux plus grands écrivains, et dont il montre que c'est une figure inconcevable dans l'Antiquité. Et il prend les figures immenses de Virgile, du Tasse, de Milton, jusqu'à Milton. En particulier à propos de Milton, je cite, « Milton vit pour construire un poème héroïque. » Et là, on trouve déjà les termes flaubertiens. « Vit pour construire un poème héroïque. » Près de l'homme-plume, qui vit pour écrire. « Depuis son enfance, peut-être même avant d'avoir écrit une seule ligne, écrit Borges, il se sait voué aux lettres. » Il craint d'être né trop tard pour l'épopée, trop loin d'Homère, trop loin d'Adam. Il parle de Milton. Milton à qui Flaubert ne comprenait rien, écrit-il. Il mentionne deux fois Milton, il dit que pour lui c'est une opacité totale. Il écrit encore Borges à propos de Milton, à 33 ans, que le poète doit être un poème, c'est-à-dire un composé et un archétype des meilleures choses. Et que nul, s'il est indigne de louange, ne doit oser célébrer, entre citations, des hommes héroïques ou des villes illustres. Il sait qu'un livre que les hommes ne laisseront pas oublier sortira de sa plume. Et ça rejoint tout à fait la question qui se posait de la postérité de tout à l'heure. À propos de Milton, donc, il sait qu'un livre que les hommes ne laisseront pas mourir sortira de sa plume. D'une certaine manière, c'est bien la forme de postérité, et le débat, et Pierre-Marc le disait, que pense Flaubert, c'est-à-dire que c'est le livre qui a la postérité, c'est l'œuvre qui a la postérité, et non pas la personne Flaubert. Et ça, c'est tout à fait profond. Cette certitude de faire œuvre pour le temps, Flaubert le dit dans la justesse, dans la précision de l'œuvre, dans la précision de la prose. Borges note encore, Flaubert crut en une harmonie préétablie de l'euphonique et de l'exact et s'émerveilla de la, entre guillemets, relation nécessaire entre le mot juste et le mot musical, bien connu comme. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Borges insiste bien sur ce fait que cette croyance en la relation, cette croyance qui est une croyance plus qu'active, puisque c'est la croyance de l'œuvre et qui fait l'œuvre, entre la relation nécessaire entre le mot juste et le mot musical, c'est ce qui fait la densité de l'œuvre, la force de l'œuvre, et qui est le destin exemplaire de Flaubert. Il ajoute, c'est tout à fait différent de ce qu'un auteur médiocre aurait pu faire de cela, c'est-à-dire un petit dialecte plein de mauvaises habitudes syntaxiques et prosodiques. C'est-à-dire qu'effectivement, cette croyance n'amène pas forcément une grande prose. Alors que, pour Flaubert, je cite, et pour Borès, sa décence fondamentale le sauva du risque de des risques de sa doctrine, et ça je trouve c'est très intéressant pour la lecture de Flaubert, sa décence fondamentale le sauva des risques de sa doctrine. Avec une longue probité, il poursuivit le mot juste qui n'exclut certes pas le lieu commun, c'est une clarté parfaite, puisque tout le problème, c'est de donner une justesse au lieu commun, une justesse d'œuvre, une justesse dans un livre que les hommes ne laisseront pas mourir. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est bien ce nœud du devenir œuvre qui est en jeu ici. C'est ça le destin exemplaire de Flaubert, et qui devient... cette justesse devait dégénérer, dit Borès plus tard, dans le vain mot rare des cénacles symbolistes. Et Flaubert est nettement en amont de cela. Donc, ne pas être dans ses livres, être comme Dieu, c'est bien connu, mais il n'est pas moins indéniable, ajoute Borès, que penser à l'œuvre de Flaubert, c'est penser à Flaubert, aux travailleurs laborieux, à ses consultations nombreuses et à ses inextricables brouillons. Donc voilà la réponse à la question de la postérité, c'est-à-dire que penser à Flaubert, penser à l'œuvre de Flaubert, c'est forcément penser à Flaubert parce que c'est penser au travail Flaubert. Mais précisément, ce n'est pas la personnalité Flaubert. Et je voudrais revenir à ce lien de l'œuvre, à ce qu'est le devenir œuvre dans l'empathie du travail de l'œuvre. Et c'est là que la question du rapport à la rage, à la folie, à la colère, à la bêtise, c'est-à-dire à ces profondes violences, même si elles ont une forme absolument, apparemment douce. La bêtise est une violence douce, d'une certaine manière, même si elle peut être d'une brutalité absolue. Ce sont des interrogations qui habitent l'écriture en elle. Jean-Pierre Richard, je suis relu à cette occasion les textes de Jean-Pierre Richard et sur Flaubert, avait traité cela en termes phénoménologiques d'aventure d'être. Dans le travail de polarité adverse, la fluidité, la dureté, la vision, l'absorption, l'idée de ruminer à loisir. Et ceci est tout à fait intéressant parce que Jean-Pierre Richard, au fond, avait affaire, et très directement, et de façon tout à fait merveilleuse, brillante, à ce travail de, ce que la formule est de Flaubert, de cet objectif qui circule en nous. L'objectif qui circule en nous. Et c'est sans doute, c'est ça, cette dimension du destin exemplaire de Flaubert tel que Borès le détruit. Et c'est ça la dimension du passage à une sorte de postérité nouvelle qui est l'œuvre de Flaubert. Devenir l'objectivité de l'œuvre. Et une sorte de communion dans l'informe, dans le désir de la forme, ça Richard l'avait tout à fait montré, tout à fait bien. On sait l'importance de cette dynamique thématique de la création et dans une sorte de mimique phénoménologique qui qualifie l'écriture. Et c'est sans doute l'un des traits possibles de l'œuvre Flaubert, être le lieu de cette appropriation mimétique qui est du monde, de sa bêtise, de son horreur, de sa profondeur. Avec précisément le mince écart de la justesse de la prose, l'infime détachement de l'ironie et de la matière même de la prose, de son rythme, de sa rythmique. L'affrontement avec la bêtise, comme l'affrontement avec l'horreur qui réside derrière la bêtise, qui est le fond de la bêtise, est vécu également comme dévoration de soi. Les déclarations sont nombreuses de Flaubert détruit par la bêtise qu'il aborde, dévoré par ce que j'aborde, et un affrontement de ce qu'il est interdit de voir, de ce qu'il est impossible de voir. C'est le deuxième élément que Jean-Pierre Richard a bien qualifié du catoblépas. Le catoblépas domine bien la création flaubertienne, écrit Jean-Pierre Richard. C'est-à-dire comment l'écriture peut travailler cette bêtise qui lui fait horreur, qui l'enveloppe, en se dévorant elle-même littéralement. Et ça, je le lis à l'autre versant, que j'appellerai le paradoxe de Thomson. Tu l'as cité, les carnets le réfèrent, c'est non gravé sur des pierres, et tu l'as évoqué, effectivement. Ce paradoxe, ou bien, on pourrait dire, le théorème de Thomson. Comment faire un monument de la bêtise qui ne soit pas bête? Précisément, le paradoxe de Thomson est là pour répondre. Si on met côte à côte le catoblépas, je cite le catoblépas dans la tentation de Saint-Antoine. Le catoblepa, c'est un des ces animaux fantastiques qui surgissent à la fin de la transcendation de Saint-Antoine, c'est-à-dire qui émergent des fantasmagories religieuses, philosophiques, comme fantasmagories quasi-naturelles, naturalistes, mais qui amènent aux êtres multiples de la nature, aux êtres naturels. Catoblepas, buffle noir, avec une tête de porc tombant jusqu'à terre. La tête de porc, le mot, là, on ne peut pas ne pas l'entendre, comme une sorte d'insulte. Hein. Buffle noir, avec une tête de porc tombant jusqu'à terre, et rattaché à ses épaules par un cou mince, long et flasque, comme un boyau vidé. Quelle lassitude, quel monde informe. Il est vautré tout à plat, et ses pieds disparaissent sous l'énorme crinière à poils durs qui lui couvre le visage. Le catoblepas parle. Gras, mélancolique, farouche, je reste continuellement à sentir sous mon ventre la chaleur de la boue. Mon crâne est tellement lourd qu'il m'est impossible de le porter. Je le roule autour de moi lentement. Et la mâchoire entr'ouverte, j'arrache avec ma langue les herbes vénéneuses arrosées de mon haleine. Une fois, je me suis dévoré les pattes sans m'en apercevoir. Personne, Antoine, n'a jamais vu mes yeux. Ou ceux qui les ont vus sont morts. Si je relevais mes paupières roses et gonflées, tout de suite tu mourrais. Antoine, oh, celui-là, ah, si j'allais avoir envie, sa stupidité m'attire. Non, non, je ne veux pas. Il regarde par terre fixement. Le catoblepas, si j'ose dire, existe. Il est décrit dans Pline. Borès le rappelle dans ce manuel de zoologie fantastique dans lequel, précisément, il cite Tentation de Saint-Antoine aussi. Cet exemple de la Tentation de Saint-Antoine autour du catoblepas, qui d'ailleurs, chez Pline, est associé au basilic, et il se trouve que le basilic vient tout de suite après le catoblepas. On pourrait dire que le basilic réveille du catoblepas. Mais les herbes s'allument et dans les torsions des flammes se dresse le basilic, grand serpent violet à crête trilobée avec deux dents, une en haut, une en bas. Cet épisode du catoblepas, je le prends donc à la fois comme emblème, que Jean-Pierre Richard a bien montré, comme une espèce d'emblème du travail flaubertien, et simultanément l'idée de ce qui est interdit. Sa stupidité m'attire, non, je ne veux pas. Il ne faudrait pas voir. Il est interdit de voir cela. Or, toute l'œuvre va consister précisément à regarder ce mouvement même. La bêtise est pétrifiante. Barthes l'a beaucoup souligné. Elle est absorbante, elle est absorbante infiniment. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Quelle position prendre, quel mimétisme inventer pour être cette stupidité qui m'attire, pour voir cette stupidité qui tue. Et c'est là qu'en effet, en écho, on a, pour ainsi dire, le paradoxe de Thompson et de la pétrification, de la bêtise affichée, monumentale. Dans le texte de Saint-Antoine, si l'on continue, ce qui est intéressant, c'est qu'après le catoblepas surgit donc le basilic et le griffon. Lien à bec de vautour avec des ailes blanches, et commence la profusion, la production des anatomies merveilleuses. Il arrive des rafales pleines d'anatomies merveilleuses. On est là dans une sorte de jeunesse fantastique que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits de Flaubert, par exemple dans le Salambeau, dans le temple, la Genèse qu'expose de Salambeau et que Agnès Bouvier a bien commenté. C'est-à-dire cette passion pour cette production d'images. Et ce qui est intéressant, c'est que si on lit les choses ensemble, on voit bien que cette idée d'une projection des images, il arrive des rafales pleines d'anatomies merveilleuses, ou encore un peu plus loin, toujours dans cet épisode qui suit immédiatement le catoblepas, épisode du griffon, partout des prunelles flamboient, des gueules rugissent, les poitrines se bombent, les griffes s'allongent, les dents grincent, les chairs clapotent, Il y en a qui accouchent, d'autres copulent, ou d'une seule bouchée s'entre-dévorent. Accoucher, copuler, s'entre-dévorer. On a une passion pour une sorte de monstruosité figurale absolument génétique, élémentaire. Il y a là une émergence du monde, une sorte de volonté d'écrire l'émergence matérielle. Et c'est à cela que se rapporte Flaubert. Et en fait, on a divisé beaucoup l'œuvre entre les œuvres archéologiques, les œuvres mythologiques, mais il y a là une continuité très profonde de l'un à l'autre. C'est-à-dire que sous cette prolifération des figures que Flaubert intègre, absorbe, mais en morceaux intenses dans la Tentation de Saint-Antoine, c'est bien ce lieu profond d'une production des choses, production matérielle, qui est en jeu. Et il s'agit d'écrire l'activité émergente du monde. Et il s'agit de les montrer au fond qu'il y a une sorte de force matérialiste et symbolique à la fois, qui est une production du monde. Et l'écriture se rapporterait à ça. Et cette production, elle est au cœur aussi, au cœur de la bêtise, ou c'est ce que la bêtise recouvre, d'une certaine manière. La bêtise comme non-sens, comme absurde. Il y a là, dans l'écriture flaubertienne, une sorte d'énergie qu'on peut appeler lucrétienne, c'est tout à fait proche de Lucrèce, de la production d'atomes, que l'écriture pourrait avoir. Et on a là, je pense, le rapport avec Milton et que fait Borès, c'est tout à fait intéressant. Le cataclysme miltonien est aussi une production infinie d'images qui tombent infiniment, la chute des anges. Ce mimétisme est figuré. Toujours dans Saint-Antoine, il y a ce fameux épisode nabucodonosorien, c'est presque un nom d'animal préhistorique, Nabucodonosor. Aussitôt, il est repu de débordement et d'extermination. Il devient Nabucodonosor. Antoine lit de loin sur son front toutes ses pensées. Elles le pénètrent. On a là une sorte de clé fondamentale du travail flaubertien. Lire, être pénétré. Ça, Jean-Pierre Richard l'avait bien démontré. Et il devient Nabucodonosor. Aussitôt, il est repu de débordement et d'extermination, et l'envie le prend de se rouler dans la bassesse. D'ailleurs, la dégradation de ce qui épouvante les hommes est un outrage fait à leur esprit, une manière encore de les stupéfier. Et, comme rien n'est plus vil qu'une bête brute, Antoine se met à quatre pattes sur la table et beugle comme un taureau. Une manière encore de les stupéfier. Il y a cette recherche de ce qui est stupéfiant, au sens presque de la drogue. Ce qui serait le lieu stupéfiant d'une possession totale, mais que l'on pourrait évidemment contrôler parce qu'elle est produite dans l'écriture, parce qu'elle est produite dans l'œuvre. On a un mimétisme représenté, le devenir bête brute. Rien n'est plus vil qu'une bête brute. Et là, on voit bien à quel point le mot bête prend son sens avec les bêtes. Et la prolifération des bêtes dans Flaubert n'a évidemment pas d'autre sens. Et quand il fait proliférer les bêtes à la fin de Saint-Antoine, c'est aussi cela, les bêtes de la mer. C'est cette idée qu'il y a là, dans la matière vivante, dans le vivant, quelque chose qui est de l'ordre de soit de la brutalité, soit de la bêtise, mais du non, c'est-à-dire d'une sorte de non-sens. Alors, quel rapport cela entretient avec la bêtise sociale, la bêtise sociologique, la bêtise de l'habitude, la bêtise de ça, c'est tout à fait la question même que pose l'œuvre dans la promiscuité de ces textes. On a là ce qui serait, au fond, la bêtise radicale. Ça n'empêche que Flaubert pense à une version paisible de cette bêtise. C'est par exemple Catherine Leroux ou Félicité. À propos de Catherine Leroux dans Madame Bovary, dans la fréquentation des animaux, elle avait pris leur mutisme et leur placidité. Donc il y a une forme douce de cette bêtise originaire, de ce lieu des bêtes. Et il y a une forme brute, violente, beugle comme un taureau. Le taureau, il y a Moloch qui est tout à fait présent. On a ici une sorte, au fond, dans cet attrait pour l'inférieur, pour le bas, et tout de suite après cet épisode de Nabucodonosor, apparaissent les Messaliens, vautrés sur les dalles, à moitié endormis, stupides, des sortes de... Bon, les Messaliens, c'est une secte, tout à fait catoblépas, vautrés sur les dalles, à moitié endormis, stupides, Oh, écrase-nous si tu veux, nous ne bougerons pas, le travail est un péché, toute occupation mauvaise. Derrière cela, les abjects paterniens, hommes, femmes et enfants, pêle-mêle sur un tas d'ordures, relèvent leur phasidose barbouillée de vin. Dans Salango, il y a cet épisode tout à fait extraordinaire, cette présence tout à fait extraordinaire, que Aragon a commenté des mangeurs de choses immondes dans cet opéra de la violence antique. Il y a une sorte de lieu extérieur, intérieur, les mangeurs de choses immondes. Ici, on a cela dans la tentation de Saint-Antoine aussi. C'est-à-dire une puissance de l'inférieur, ce lieu stupide, moitié endormi, stupide, une sorte de métaphysique de la stupidité. Donc dans ce mouvement-là, on rencontre, donc de l'autre côté, le paradoxe de l'amendumentalité, le paradoxe de Thomson. Je cite, dans la correspondance, cette fois, la correspondance est quand même très proche de ce qui est dans le carnet que tu as cité, Alexandrie, un certain Thomson de Sunderland, a sur la colonne de Pompée écrit son nom en lettres de 6 pieds de haut. Cela se lit à un quart de lieue de distance. Il n'y a pas moyen de voir la colonne sans voir le nom de Thomson et par conséquent sans penser à Thomson. Ce crétin s'est incorporé au monument et se perpétue avec lui. Que dis-je ? Il l'écrase par la splendeur de ses lettres gigantesques. N'est-ce pas très fort de forcer les voyageurs futurs à penser à soi et à se souvenir de vous ? Tu l'as cité, c'est à peu près le texte du carnet. Oui, nous sommes très près du destin exemplaire de Borès, tel que Borès le décrit, très près et très loin, bien sûr. Cette façon, on ne peut pas lire du Flaubert sans penser à Flaubert. Mais on ne pense pas à Flaubert individu, on pense à Flaubert œuvre, devenu œuvre. Ici, au contraire, c'est l'individu qui couvre une œuvre du passé. Et il y a là un commentaire, la bêtise, ici, au fond, n'est pas ce qui absorbe le Thomson. Ce n'est pas ce qui est absurde, ce n'est pas non plus ce qui fascine, c'est ce qui se montre monumentalement. Et au fond, ce qui est fascinant, c'est ce désir de se montrer monumentalement, par le nom, par la signature. Alors qu'effectivement, le devenir œuvre, c'est dissoudre le nom dans l'œuvre, dissoudre le nom dans la prose. Être Flaubert prose, l'homme-plume, être cela. Donc c'est dissoudre le nom. On est là vraiment dans une sorte, oui, de paradoxe de Thomson. Le paradoxe, ici, il est cette bêtise-là, cette bêtise agressive, montrée, nommée, elle est pénible, elle est agressive, elle est douloureuse. Et la suite de la lettre écrit, ils sont si nombreux. Et puis, c'est qu'ils nous enfoncent toujours. Ils sont si nombreux, ils reviennent si souvent. Ils sont en si bonne santé, ils ont si bonne santé. Je trouve cette formule extraordinaire. Les gens bêtes qui se montrent, ils ont si bonne santé. Cette idée qu'il y a une hostilité comme ça de la bêtise qui s'affiche. En voyage, on en rencontre beaucoup. Et déjà, nous avons dans notre souvenir une jolie collection. Mais comme ils passent vite, ils amusent. Ce n'est pas comme dans la vie ordinaire, où ils finissent par vous rendre féroce. La vie ordinaire, évidemment, c'est une grande part de l'œuvre de Flaubert, c'est même une part essentielle de l'œuvre de Flaubert, et cette férocité qui répond à la bêtise est tout à fait fondamentale à l'écriture flaubertienne. Le paradoxe, il est celui-ci, à quel monument s'incorporer, où se perpétuer, qui serait un monument à la bêtise universelle, à la férocité de celle-ci, à son outrage constant, la bêtise comme outrageante. L'œuvre, on pourrait dire, anti-Thomson, qui délivrerait de la bêtise qu'elle absorbe. Je veux prendre un exemple sur un versant, il y en a plusieurs versants de cette bêtise outrageante, le versant qui va vers l'horreur, vers le non-sens absolu, vers la brutalité radicale, le versant, on pourrait dire, Nabucodonosor. La bête brute. Et c'est pour ça que j'ai introduit le terme de stupeur. Stupeur comme engourdissement, ce qui plonge, écrit, immobilité causée par une grande surprise ou par une frayeur subite dans le littré et dans les châtiments, Hugo écrit, et ce qui plonge l'âme en des stupeurs profondes, c'est la perfection de ces gredins innombrables, de ces gredins immondes, pardon. Et ce qui plonge l'âme dans des stupeurs profondes, c'est la perfection de ces gredins immondes. Je trouve que les deux vers de Hugo qui viennent des châtiments peuvent tout à fait être attribués à un certain sentiment que Flaubert exprime souvent. La stupeur de la perfection des gredins immondes. Hugo, d'ailleurs, qualifiait de stupeur la situation des misérables. Hugo parle de la stupeur sociale, c'est-à-dire ces êtres qui sont immobilisés par la misère. Pas ce qui intéresse Flaubert, même si on peut en trouver des accents. Mais ce qui intéresse Flaubert, c'est cette bêtise qui devient l'horreur, qui est sous sa platitude, sous sa relative, disons, innocence, celle de la répétition, par exemple, celle de l'habitude. Tu citais des exemples où ce qui est insupportable, c'est l'habitude. Il y a une bêtise de l'habitude. Là, il faudrait d'ailleurs se rapprocher de Ravaisson qui théorisait l'habitude de façon tout à fait passionnante. Mais derrière elle, il y a un gouffre de violence. Il y a un gouffre d'horreur. Et alors cela, Flaubert le fait sortir par moment, l'expose. Il le dit dans un des textes de l'éducation sentimentale, qui est un des rares textes de formulation, au fond, d'avis, d'opinion, si on peut, bien connu, ils furent généralement impitoyables. Ceux qui ne s'étaient pas battus voulaient se signaler, c'était un débordement de peur, et en dépit de la victoire, l'égalité, comme pour le châtiment de ses défenseurs et la dérision de ses ennemis, se manifestait triomphalement, une égalité de bêtes brutes, c'est bien connu, ça a été commenté, un même niveau de turpitude sanglante. On est très près de la tentation de Saint-Antoine, on comprend en lisant cela aussi ce que Flaubert cherche dans les figurations de l'Antiquité. Il ne va pas du tout chercher des lieux d'air pur, au contraire, il va vraiment chercher dans les autres textes ce qui confirme cette existence d'arrière-fond de l'horreur sous des figures ou sous la bêtise. Car le fanatisme des intérêts équilibra les délires du besoin, on est presque dans du Tacite là, le fanatisme des intérêts équilibra le délire du besoin, c'est une formule tout à fait latine, je trouve, à la Tacite. L'aristocratie eut les fureurs de la crapule et le bonnet de coton ne se montra pas moins hideux que le bonnet rouge. La raison publique était troublée comme après les grands bouleversements de la nature, on est bien là dans l'idée d'une société qui est une sorte d'organisme bouleversé. Des gens et d'esprit, et cette phrase est bien connue, en restèrent idiots pour toute leur vie. Très belle phrase. Le texte ajoute un peu plus loin. C'est alors là le père Roch, faut vous rappeler la fin, c'est le père Roch qui fait l'horreur de tuer et de sang-froid. Et là, Flaubert, au fond, illustre, au sens d'illustration, au sens de l'illustre, les hommes s'illustrent, cette égalité de bête brute par l'épisode du père Roch, évidemment. C'est-à-dire le prisonnier est celui qui tue en toute impunité, mais c'est plus fort que moi, parce qu'il en est un petit peu malade, le père Roch, mais c'est plus fort que moi, je suis trop sensible et critique. Tu as dans les notes montré comment, dans l'assassinat des Tuileries, Flaubert combine deux témoignages. Et alors, ceci devient l'objet même de cette recherche. Qu'est-ce qui, derrière la bêtise brute, l'égalité de bêtes brutes, quelle est l'horreur qui en est le fond? Et ceci, il faut le faire passer en prose, il faut le faire passer en texte, lui donner une sorte de vivacité qui est celle de la prose. Et je cite de ce point de vue un passage qui peut apparaître loin, mais en même temps qui me semble être... Alors là, le destin exemplaire de Flaubert, c'est-à-dire cette prose Flaubert, comme dit Borges, toujours dans l'éducation sentimentale, un passage un peu tout à fait précédent. Quelquefois, un battement de pas lourds s'approchait. C'était une patrouille de 100 hommes au moins. Des chuchotements de vagues cliquetis de fer s'échappaient de cette masse confuse. Et s'éloignant avec un balancement rythmique, elle se fondait dans l'obscurité. Il y avait au centre des carrefours un dragon à cheval, immobile. De temps en temps, une estafette passait au grand galop, puis le silence recommençait. Des canons en marche faisaient au loin sur le pavé un roulement sourd et formidable. Le cœur se serrait à ces bruits différents de tous les bruits ordinaires. Différents ANT, différents de tous les bruits ordinaires. Il semblait même élargir le silence qui était profond, absolu, un silence noir. Des hommes en blouse blanche abordaient les soldats, leur disaient un mot et s'évanouissaient comme des fantômes. Voilà quelque chose qui est gravé. Voilà une prose qui est inscrite, c'est une précision extraordinaire, mais qui précisément est habitée dans le glissement entre le rythmique et le visible, balancement rythmique, se fonder dans l'obscurité, pour un effet d'espace, de béance, j'emploie le mot volontairement ici, le silence recommençait, le cœur se serrait à ces bruits différents de tous les bruits ordinaires, avec ANT, le participe présent. C'est-à-dire que l'écriture se porte dans cet instant où les choses s'ouvrent, où quelque chose se défait absolument, il semblait même élargir le silence, qui était profond, absolu, un silence noir. On est là dans une sorte de poème en prose. Et ce silence noir, d'où sort-il? C'est ce silence noir qu'il faut voir, qui peut tuer, qui pourrait tuer, mais pas dans la prose, si on peut dire. C'est ce silence noir qui est le fond des choses, et que Flaubert regarde ici dans un épisode historique d'une violence de bête brute, d'une violence historique qui est le partage de la violence absolue. On a bien là l'idée que l'œuvre est l'inscription de Flaubert œuvre, de Flaubert plume, et dans la quête, la faire sortir littéralement dans l'œuvre, dans la prose, la puissance de ce silence noir. Il faut être capable de produire le cœur des ténèbres. Conrad était un grand lecteur de Flaubert, et Conrad, dans Le Nègre de Narcisse, évoque, sans le dire absolument, deux passages de Salammbô. Mais deux passages très forts d'ailleurs, parce que c'est l'un, le souvenir de la vie heureuse, c'est-à-dire quand les soldats, dans un état épouvantable, pensent à leur rue, à leur quartier, et l'autre, c'est autour du moment où, dans le polyglottisme universel, il y a un seul mot que tout le monde comprend, qui est frappe. Frappe. Et Conrad aimait beaucoup, Flaubert en particulier, le lisait beaucoup. Et je dis ça parce que, évidemment, le Heart of Darkness, le cœur des ténèbres, est une sorte d'œuvre radicale, et ce n'est que 20 ans après Flaubert, c'est-à-dire à la fin du 19e, une œuvre radicale sur le silence noir, sur ce cœur des ténèbres, le mot central vers lequel toute la nouvelle va, c'est horreur, l'horreur, l'horreur. On a là quelque chose qui traverse le siècle et qui est un rapport nouveau à l'horreur et à la monstruosité que peut avoir la bêtise. Ceci est très frappant dans certains épisodes de Flaubert, alors y compris, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la manière dont se rapporte ainsi autour de cela, de cette recherche du silence noir, les œuvres qu'on considère comme les plus diverses. Par exemple, dans l'éducation sentimentale, épisode bien connu, qu'il s'agit précisément de monumentaliser, celui du meurtre de Dussardier, qui devient vraiment une sorte de passage emblème autour de Vive la République, autour du cri Vive la République, que Flaubert monumentalise littéralement, mais sur les marges de Tortoni, un homme, Dussardier, remarquable de loin à sa haute taille, resté sans plus bouger qu'une cariatide. Oui, Dussardier est déjà mis en statue d'une certaine manière, remarquable de loin à sa haute taille. Là encore, c'est le Thompson à l'envers, on le voit de loin. Un des agents qui marchait en tête, le tricorne sur les yeux, le menaça de son épée. L'autre, alors, s'avançant d'un pas, se mit à crier « Vive la République !» Il tomba sur le dos, les bras en croix, simple. Un hurlement d'horreur s'éleva dans la foule, horreur. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard, et Frédéric, béant, reconnut Sénessa. L'agent fit un cercle autour de lui avec son regard, c'est l'espace tout entier qui est ouvert. Ouvert fermé, sur ce fond d'horreur, et Frédéric, béant, reconnu Sénéca. Et c'est écrire, se rapporter à cette béance derrière la brutalité bête, qui évidemment est le rôle et la mission de cette prose. Dans Salammbô, à mesure que les prêtres se hâtaient, la frénésie du peuple augmentait, on aurait dit que les murs chargés de monde s'écroulaient sous les hurlements d'épouvante et de volupté mystique, quelques-uns qui avaient des couteaux se précipitèrent sur les autres, on s'entrégorgea, avec des vannes de bronze, des hiérodoules prirent au bord de la dalle les cendres tombées, et ils les lançaient dans l'air, afin que le sacrifice s'éparpillât, et jusqu'à la région des étoiles. Paragraphe, ce grand bruit et cette grande lumière avaient attiré les barbares au pied des murs. Se cramponnant pour mieux voir sur les débris de l'Hélépole, ils regardaient béant d'horreur. C'est la fin d'un chapitre, la fin du chapitre Moloch. Le même dispositif, l'horreur visible et l'effet de l'horreur, cet effet de béance, parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus d'autre sens qu'une sorte de silence noir, d'horreur radicale qui est derrière. Il y a un instant, un dispositif de vision et de prose, où l'espace s'écarte, s'ouvre à l'horreur, à une brutalité absolue, cette brutalité de Bête-Brut. Et on pourrait dire que la prose, au fond, qui quête cette béance du réel, qui est aussi une béance du sens, une dispersion, une absence de sens totale pour devenir le juste monument sensible de cette ouverture, de cette béance. On le voit dans d'autres lieux, et par exemple dans Saint-Julien, c'est intéressant de voir que Flaubert imagine tout de même de le rapporter à une conscience de cette béance. Le personnage de Saint-Julien qui est pris, pour ainsi dire, dans la nécessité d'une prédiction, dans le cours de la légende, qui d'une certaine manière n'a pas d'autonomie autre que celle d'être celui qui va devenir saint. Il y a cet instant où Flaubert indique une sorte de cogito de l'horreur. Le cerf tombe, il plia les genoux, ferma doucement ses paupières et mourut. Ça pourrait tout à fait être un homme. Julien fut stupéfait, puis accablé d'une fatigue soudaine. Et Flaubert a rapport soudain à cette espèce de fatigue absolue des choses, fatigue soudaine. Il y a une lassitude complète, il y a un rapport au moment où les choses sont épuisantes. Flaubert a un rapport épuisant à son propre travail, et ça c'est tout à fait important. Et un dégoût, une tristesse immense l'envahit. Dégoût, tristesse immense, les mots sont là. Enfin, Flaubert l'emploie pour lui-même, bien sûr, tellement. Mais là, c'est dans l'œuvre. Le front dans les deux mains, il pleura pendant longtemps. C'est un passage d'une mélancolie folle, extraordinaire. Et précisément devant le massacre. Julien s'adossa contre un arbre. Il contemplait d'un œil béant l'énormité du massacre, ne comprenant pas comment il avait pu le faire. Ça, cette petite instant de conscience attribue au moins à Julien cette conscience que les autres n'ont pas, sauf par exemple dans Salammbô, ce sont les barbares qui ont la conscience de l'horreur des Carthaginois en grimpant sur les murs pour voir le sacrifice. Ou l'éducation sentimentale, la foule stupéfaite d'horreur devant cette bêtise brute, cette violence de bête brute qui est le meurtre du Sardine. Ceci va aussi dans le psychologique, évidemment. Dans Madame Bovary, le moment où tout se défait, où ce qui tenait par le désir s'effondre devant la société, devant la dette, la dette et l'argent, le grand malaise, on peut dire, d'Emma, au retour de chez Rodolphe, elle resta perdue de stupeur. Et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères, qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Et c'est un épisode d'hallucination, si on veut. Le sol sous ses pieds était plus mou qu'une onde, et les sillons lui parurent d'immenses vagues brunes qui déferlaient. Là aussi, on sent la proximité avec l'écriture féerique de saint Antoine, avec l'écriture féerique de Salammbô par moments. Féerique tragique, féerique intense et morbide. Tout ce qu'il y avait dans sa tête de réminiscence, d'idées, s'échappait à la fois d'un seul bond, comme les 1000 pièces d'un feu d'artifice, etc. Dans un instant comme ceci, Flaubert, alors ce n'est pas bêtise, mais c'est le moment où l'être se défait, au fond, où l'être est lâché dans le vide, perte absolue de sens, y compris d'ailleurs des sens de l'espace. La version psychologique, au fond, ici, est un profond trouble métaphysique. Le monde s'ouvre, le monde se dérobe, le monde est un gouffre. Silence noir. Flaubert l'a commenté, cela. La stupidité féroce des hommes, ce qui me navre, c'est la stupidité féroce des hommes, je suis rassasié d'horreur. En 1870, à Claudius Poquelin. L'infinie stupidité des masses me rend indulgent pour les individualités. Je vous assure que je deviens stupide avec la révolution, c'est un gouffre qui m'attire. À George Sand, 31 octobre 1968. Et ceci a une dimension de menu monnaie qui est le partage des choses, du pouvoir, et en particulier l'idée que le pouvoir est essentiellement stupide, et Flaubert, évidemment, dissocie radicalement le bien et le beau du pouvoir absolument. À Caroline, 18 avril 1880, tardif, le public n'est pas si bête que ça. Il n'y a de bête en fait d'art que, premièrement, le gouvernement, deuxièmement, les directeurs de théâtre, troisièmement, les éditeurs, quatrièmement, les rédacteurs en chef de journaux, cinquièmement, les critiques autorisées. Il n'y a de bête que. En ce qui concerne la littérature, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a de pas bête que l'œuvre. Enfin, tout ce qui détient le pouvoir, parce que le pouvoir est essentiellement stupide. Depuis que la Terre tourne, le bien et le beau ont été en dehors de lui, et on sait à quel point. Et conclut, telles sont les idées de ton vertueux oncle qui t'embrasse, à Caroline. Le vertueux oncle en question, on sait à quel point il lit intensément le bien et le beau. Le beau étant de la justesse et de la justice. Ça, c'est tout à fait important pour lui. Il s'agit bien d'inventer la prose d'une obscurité qui serait, montrerait, qui atteindrait, qui verrait, qui regarderait ces yeux du catoblépas qu'il ne faut pas regarder, qu'il est interdit de voir sous peine de mort, au cœur de choses, un vide radical qui absorbe. La prose se rapporte à cette... Alors c'est une dimension relativement différente de ce que Deleuze a pu décrire comme la fêlure chez Zola jusqu'à Scott Fitzgerald. C'est quelque chose qui a plus le nom de gouffre, et que je qualifierais de, précisément, silence noir. Dans une lettre de la fin de sa vie, Flaubert, au moment de la guerre de 70, et où l'horreur est réelle, et où l'horreur est prometteuse, d'horreurs à venir beaucoup plus catastrophiques encore, et Flaubert en est, comme Renan d'ailleurs, ils ont une notion que la guerre de 70 est une première guerre de massacre nouveau, de type de massacre nouveau, Flaubert parle de Lucrèce et renvoie à l'idée que c'est le moment où l'humanité était enfin seule et que c'est sur un fond noir absolu. Et je trouve que là, c'est tout à fait ce que l'œuvre cherche. Dans l'écriture, deux lettres correspondance à Louis Collet en 1953, la difficulté que j'ai à me recueillir maintenant vient sans doute de ces deux dérangements successifs, le mouvement est arrêté, loin de ma table, je suis stupide. L'encre est de mon élément naturel, beau liquide du reste que ce liquide sombre et dangereux, comme on s'y noie. Comme il attire. Là, ça, c'est le destin exemplaire de Flaubert d'après Borges. Et une autre lettre, Alphin de Baudry, en 60, du temps de Salammbô. Mon brave, je vais bientôt m'en retourner à Rouen pour le mariage de ma nièce, mais sans doute je serai obligé de revenir ici presque immédiatement pour me livrer à diverses lectures. À mesure que j'avance dans mon travail, il s'agrandit. Je deviens stupide. Les notes m'encombrent, que sera-ce fini? Je suis stupide loin de ma table, je suis stupide dans mes notes. Il y a cette idée que l'écriture est un rapport. Si on n'écrit pas, on devient stupide. Si on écrit, on est dans les notes. C'est un rapport, au fond, d'absorption, destin exemplaire d'être l'absorption dans l'impossibilité de ne pas l'être, de ne pas être dans ce mouvement. Ça me fait penser à la réponse de Beckett à la grande enquête de Libération. Pourquoi écrivez-vous? Réponse de Beckett, bon qu'à ça. La réponse la plus brève et la plus efficace qui soit. Je termine, je ne conclue pas véritablement, mais d'abord avec une lettre à Louise Collet de 52, où Flaubert évoque l'histoire de Gagne, et l'histoire qu'il a appris ces jours-ci, l'internement à Saint-Yon, maison de fous de Rouen, d'un jeune homme que j'ai connu au collège. Il y a un an, j'avais lu de lui un volume de vers stupides, mais la préface m'avait remué comme bonne foi, enthousiasme et croyance. J'ai su qu'il vivait comme moi à la campagne, tout seul et piochant tant qu'il pouvait. Les bourgeois le méprisaient beaucoup. Une espèce de petit Flaubert, comme ça, de petite image provinciale de Flaubert, hein, hyper provinciale de Flaubert. Il était, disait-il, en butte à des calomnies, à des outrages. Il avait tout le martyr des génies méconnus. Alors évidemment, tout le martyr des génies méconnus. On retrouve la question initiale. Il est devenu fou. Le voilà délirant, hurlant et avec des douches. Qui me dit que je ne suis pas sur le même chemin? Où est la limite de l'inspiration à la folie, de la stupidité à l'extase? Ne faut-il pas, pour être artiste, voir tout d'une façon différente à celle des autres hommes? Ce qui est intéressant ici, c'est voir d'une façon différente, mais c'est voir tout aussi, également, tout également. L'art n'est pas un jeu d'esprit, c'est une atmosphère spéciale, mais qui dit qu'à force de descendre toujours plus avant dans les gouffres pour respirer un air plus chaud, on ne finit pas par rencontrer des miasmes funèbres. On trouve le grand mythe du voyage aux enfers, depuis Ulysse. Ce serait un joli livre à faire que celui qui raconterait l'histoire d'un homme saint, il l'est peut-être lui, enfermé comme fou et traité par des médecins imbéciles. Sans doute Flaubert occupe cette place. Et je terminerai en disant que ce paradoxe Thompson, le théorème Thompson, comment être l'anti-Thompson, c'est-à-dire que la bêtise soit gravée définitivement sans, on pourrait dire sans son nom d'auteur, mais on ne peut pas non pour autant oublier le nom d'auteur. Et c'est, Flaubert la prête évidemment à Bouvard et Pécuchet, en leur confiant le grand œuvre final, avec ce seuil, alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attestaient, les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. C'est évidemment tout qui passe là. Tout est virtuellement pris dans cela. Et l'anti-Thompson, au fond, c'est ce livre gouffre, où la monotonie des habitudes, la violence des pauses, la violence et la stupidité des pauses, où l'impératif des idées reçues, l'impératif contraignant des idées reçues, des phrases reçues, seront à la fois gravés, inscrits, dans le monument étrangement souple, étrangement paradoxal, où tremblera la bêtise, où va répéter. Je vous remercie.
Tension entre la stupeur, la fatitude et la violence qu'il y a derrière la béance, dans la violence, c'est vraiment un fil conducteur dans l'œuvre de Flaubert. Y a-t-il des remarques? Oui, madame?
Oui, mais j'ai pas l'impression que malheureusement, je ne sais pas.
Pardon?
Tellement de choses intéressantes et malheureusement j'ai mal noté les textes où Borges parle de Flaubert.
C'est dans Discussion, Flaubert et son destin exemplaire, traduction française. On le trouve dans l'édition, enfin ça a été publié dans Discussion.
Je l'ai en espèce.
Oui, oui.
Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est le seul texte à
votre... Non, il y a un autre texte sur Flaubert, c'est Bouvard et Pécuchet. Défense de Bouvard et Pécuchet,
oui,
qui est aussi dans Discussion.
On aurait pu aussi se demander, mais on peut toujours le faire d'ailleurs, quel est le retentissement dans l'œuvre fictionnelle de Borges de Flaubert et la bêtise, de la question de...
Oui.
Est-ce que ça se retrouve? Est-ce que la présence de Flaubert n'est pas celle-ci.
J'ai pas travaillé énormément sur Borges, mais j'ai quand même cherché, puisque j'ai écrit un article sur Borges.
Oui, oui.
Et Modernité, tu as publié.
Oui, on fait une petite parenthèse publicitaire. Il s'agit de la revue Œuvres et Critiques numéro 34 qui est parue en 2009, consacrée à Flaubert et la littérature contemporaine, plutôt la littérature, les écrivains contemporains et Flaubert. Et ce séminaire se fait un peu dans le prolongement de ce numéro de revue. Et Jacques avait écrit un article de fond sur Borges.
Et donc, à l'occasion, c'était Borges, Queneau et Flaubert. En fait, c'est. Mais à l'occasion de ce travail-là, je suis retourné voir dans Borges. C'est différent. Dans, ici, sur la trahison, sur. Mais comme ce sont des fictions intenses, c'est très très différent. Bien sûr, il y a l'utopie de la bibliothèque. Mais là encore, c'est une utopie. Très totalisante, pas du tout de la même manière que Bouvard et Pécuchet. Alors, il y a un petit conte de Borges qui s'intitule La stupeur. Alors, évidemment, je suis allé voir tout de suite, mais c'est une sorte de fait divers policier. C'est la stupeur devant la méchanceté humaine, mais bon, ça, c'est assez général.
C'est pas le thème de la bêtise
non.
qui relie.
Non.
Oui, Françoise Gaillard.
Pas, j'aurais d'autres questions, mais quand d'autres vont parler, là, c'était juste un petit étonnement. C'est vrai que Conrad a lu Flaubert, mais moi je trouve, tu as évoqué Out of Darkness, et l'esthétique de Conrad est tellement différente. Moi je vois pas le.
Oui.
Bien sûr qu'il y a cette horreur, mais du point de vue de l'écriture.
Ah oui, non, c'est
pas.
Non, c'est.
Il n'y a pas de rapport.
Le rythme ternaire chez Conrad.
Oui, mais.
Non, mais je ne pense pas qu'il y ait une influence stylistique.
Il n'y en a pas.
Non, du tout.
Non.
Et je te dis, là, le Salambeau est évoqué dans le Nègre du Narcisse, c'est autre chose.
Donc,
je ne pense pas qu'il y ait de rapprochement stylistique possible. Non, pas du tout.
C'était juste pour éclairer ça.
Mais simplement, l'idée, quand même, que l'écriture est une sorte de quête, de quête vers un cœur noir.
Vers le noir.
De toute chose, c'est-à-dire sans Dieu, ou plutôt où les divinités ne sont plus que des fétiches violents, intenables. Et c'est, moi, je crois que c'est tout à fait cela.
Là, oui.
Je voulais dire, Salambo, c'était le roman préféré de Conrad.
Je ne sais pas. Vous savez ouais, alors, voilà. Mais au point qu'il. Que dans le Nègre du Narcisse, il y a deux passages qui manifestement sont des échos très dilués très, de Salambeau, enfin, je l'ai cité. Le passage où le seul mot que chacun comprend c'est frappe, ça ne peut vraiment venir que Salambeau, et l'autre passage c'est celui de la nostalgie de la vie commune heureuse, quand ils sont pris dans le bloqué, glacé. Et qu'ils se rappellent le quartier, le café, etc. Il y a un épisode comme ça dans Salambeau. Où les soldats, les barbares, se mettent à se rappeler la place de leur village. Et ça, c'est très, très frappant.
Monsieur,
vous avez une question ? Et maintenant, sur Gamera, sur la finance, ou aussi les permanences qui sont de l'ordre des frères, les fictions des banquiers, il y a une nouvelle qui apparaît, qui est la première qui est dans fiction.
Ouais.
Qui s'appelle, en espagnol, je ne connais pas la production française, s'appelle Funes de Morioso. Comme Funes, c'est lui qui s'est rappelé de tout.
Oui, oui.
Et alors là, je trouve qu'il y a, je ne sais pas si il y a bien dire, mais il y a quand même quelques rapprochements par rapport à quelque chose qu'on pourrait appeler la bêtise. Si on fait très attention, c'est que vous avez dit tout à l'heure par exemple par rapport à la bêtise de la vécu. Alors, la nouvelle, c'est un personnage qui a les pouvoirs un peu magiques sur la tourelle et se souvenir de tout type de surprise. Il s'en rappelle de tout soir, de toute sa vie, de tout ce qu'il a lu, des phénomènes naturels de tous les jours. Et de telle façon que son jour, un jour au quotidien, devient les souvenirs du jour précédent. Et comme ça, comme une progression à l'infini de l'accumulation. Et là, c'est bien, il n'y a pas l'émotion de la note, par exemple, mais il y a bien une notion sur sur le pouvoir politique, parce que finalement, dans ces souvenirs, il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de sélection sur ce qu'il y a à rappeler. Et finalement, c'est une espèce de mouvement construction, une accumulation des temps, des nuages. Et ça rappelle, si on lui demande, si on demande de cette conversation, qu'il aurait dit, il le sait parce qu'il a lâché tous les comptes de personnes, de l'instant du monde. Et là, il y a deux autres choses qui me semblent qui se rapprochent. Et c'est esthétique à tous les avis. Et c'est finalement cet homme aussi a le côté fatigant et puissant de la bêtise.
Ouais.
C'est ce pouvoir inutile finalement, le bébien, finalement, quelqu'un qui sert à rien. Cette personne ne peut pas faire de son pouvoir quelque chose d'utile. Et simplement, ça le fatigue. Ça le devient très lourd et il meurt très jeune à cause de cette espèce de maladie qui est devient une maladie. Et l'autre chose, c'est qu'on pourrait lire dans ce livre, dans cette nouvelle, c'est que vous appelez tout à l'heure une sorte de métaphysique de la stupidité. C'est-à-dire une stupidité qui n'est pas planifiée, qui est quelque chose qui est.
Oui, il n'est pas planifié.
Il est venu avec lui, il a les pouvoirs de faire. Et ça.
Oui, non, mais c'est intéressant. Je pense qu'il peut y avoir. J'ai pas du tout exploré en détail. Ça paraît très différent, mais il y a certainement des échos possibles sur l'attitude. Bon, merci en tout cas. Merci beaucoup du renseignement. C'est la première nouvelle de Inquisitionnes.
De fiction.
D'accord. Pour aller continuer dans le sens, on pourrait tout de même dire que l'idée du séminaire du Don Quichotte répété est une idée qui pourrait sortir de Bouvard et Pécuchet. Ça tout à fait, effectivement.
Ouais. Pas vraiment, parce que c'est pas une copie.
Non, c'est pas une copie, c'est une réinvention. Mais justement, c'est un déplacement de la question de la répétition qui peut être aidé par Bouvard et Pécuchet d'une certaine manière. Ce serait à approfondir, je ne sais pas.
Une lecture de Bouvard et Pécuchet.
Oui, ça peut. De même, quand on a Frédéric Béant reconnu Sénégal, le béant, c'est l'œil béant, c'est la bouche béante.
Il est toujours employé en apposition.
Oui, oui. Et dans le cadre de l'éducation sentimentale, alors là, pour employer le mot que tu viens d'employer, Flaubert le performe avec le blanc qui suit, c'est-à-dire qu'il partit, il revint. C'est-à-dire qu'il y a le grand blanc des années qui suit cette béance. Et c'est le Second Empire qui tombe dans le trou. Ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que ce grand silence, ce sont les années du Second Empire. Et ça, c'est une performation.
La vision pour Flaubert ne passe que par l'écriture. En fait, c'est le regard intérieur.
Oui. Oui, bien sûr.
Ce qui m'intéressait, quand tu as relu le passage sur les quatre oubliées de place, qui était plus hilarant,
c'est
un passage formidable. Mais ce qui est très intéressant, Anne l'a souligné, mais au fond, c'est cette préfiguration qui sera retravaillée par Roland Barthes du caractère médusant de la Bédie, si tu veux, cette méduse qui pétrifie, en fait, il ne faut pas lui soulever la paupière, car c'est lui qui va vous faire mourir, qui va vous tuer. Cette Bédie qui tue, à la fois elle fascine, parce que vous avez envie de soulever la paupière, et en même temps, elle va vous pétrifier. Et on est dans cette isotopie qui sera ensuite reprise longuement, constamment d'ailleurs, dans les œuvres de Barthes.
Oui, non, je l'ai mentionné, que la bêtise pétrifiante est médusante. Mais précisément. Oui, oui. Et en même temps, c'est un peu une nuance, parce que. Il ne faut pas. Le cas d'Oblépas ne regarde pas. Alors que la méduse regarde.
C'est non, mais que, l'idée que, dans le texte, c'est qu'il ne regarde pas, il te dit ne soulevez pas et, ma paupière pour ne pas que je vous.
En effet, le texte est tout à fait extraordinaire parce que n'a jamais vu mes yeux, ou ceux qui les ont vus sont morts, donc ils ne peuvent pas témoigner. Si je relevais mes paupières roses et gonflées. Alors ça, le détail, mes paupières roses et gonflées, c'est extraordinaire. Alors, peut-on appeler ça, puisque tu parles de Barthes, est-ce qu'on appelle ça un effet de réel? Les paupières roses et gonflées. D'une certaine manière. Oui, voilà. D'une certaine manière, c'est un effet de réel, en effet. Mais dans Pline, c'est très, très strictement le texte de Pline. Hein. Le texte de Pline dit bien que les gens sont morts à regarder le cas d'Oblépas. Et Cuvier a étudié, et Cuvier déduit que c'est le goun. Alors, je ne sais pas ce qu'est le goun. Ah, il y a peut-être un goun, mais un cas d'Oblépas, sûrement pas. Alors. Je crois que c'est.
On en reste sur le goun.
Et sur Cuvier. Ben, merci.
Merci beaucoup. Alors, la prochaine séance, ça sera le samedi 12 mars. On ne fait pas de séance en février. Et nous écouterons Pierre Cachet.